happy.
Good morning.
Really happy.
Good morning.
To be with you.
Good morning, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 avril et en cette belle journée de printemps, le Bitcoin est à 71 000 dollars, l'Ethereum est à 3500
et les runestones.
Les runestones sont à il y a chaud sur les runestones, Rem. Les runestones sont à 0.08 BTC. Wow. Pour l'instant, donc tout plein d'éclaircies, on va dire, dans ce monde des cryptos et des NFT. Vous avez entendu la douce voix de mon cher Rémi, c'est John qui vous parle.
Salut John.
Rémi, il est chaud, il a envie de parler de plein de trucs là.
John, t'es dans BFM Business, on dirait maintenant le matin.
Pourquoi, comment, pourquoi?
Le cours du Bitcoin. Alors, on est à plus 4,5% en cette belle matinée de printemps.
Alors, on attend le support des 67 000 pour pouvoir éventuellement rebondir. Moi, je conseillerais une position semi-agressive sur le Bitcoin, mais évidemment, rester défensif, car ce ne sont pas des conseils financiers.
Tout à fait.
Et ça reste des valeurs extrêmement volatiles, et tout ce que vous avez perdu, voire plus, peut-être perdu encore plus.
Ah, t'es bon! Ah, t'es bon! Et moi, j'étais en boss quoi direct, quoi!
Bon, Rem, ouais. Ça c'est bien, on parle des cours, on parle de Bitcoin, on parle de tout ça. Mais aujourd'hui, on va parler aussi justement d'art.
Allez, enfin! Ouh!
Alors, d'art.
J'étais pas sûr de rester ce matin, mais finalement, j'ai peut-être faire la room avec toi.
Ouais, parce que Rem, il commence à boycotter là, tous les sujets Memecoin.
Non, hier, c'était très, très, très cool avec Pierre Poz.
C'est vrai ?
Ouais. On a fait une room vidéo. Ouais.
Une room vidéo, hyper cool. Vous avez des coups.
Bon, en fait, finalement, on est parti sur Farcaster, les Memecoins, et c'était très, très cool. Vraiment, moi, ça m'a donné une autre vision, finalement, de ce monde-là.
Ah, tu vois, Rem, tu vas y arriver petit à petit. Ouais. Et donc là, bah, on revient un peu sur des fondamentaux, on va dire aujourd'hui avec notre invité du jour. Notre invité du jour, c'est Alex. Alex, en fait, qui est à l'initiative du projet Distributed Gallery, qui n'est pas une galerie, mais ça, on va en parler. Comment ça va, Alex ?
Ça va, très bien.
Salut, Alex.
Alors, Alex, je vous dis très simplement, moi, j'ai découvert en fait ton travail tout de suite. C'était, je pense, à ETHCC, il y a 3 ans, je pense, un truc comme ça. Mmh. C'était ce fameux body manchot. Donc, tu sais, donc vous voyez un body manchot, comment on appelle ça ? Une machine à sous, quoi.
Un bandit manchot.
Un bandit manchot, une machine à sous, qui est en fait, tu nous réexpliqueras, mais qui est connecté à la blockchain Bitcoin, si je ne me trompe pas.
Non, alors je peux t'expliquer si tu veux vite fait.
Explique-moi, je me souviens plus.
Non, t'inquiète. Non, le bandit manchot, du coup, c'est une machine qui a été faite en collectif, c'est une machine en or et en métal, que l'or le bois. Elle est connectée juste à Internet, en fait, assez simplement. Le truc qu'elle fait, c'est que c'est une machine, simplement, tu mets une pièce dedans et elle va générer, quand tu tires sur le bras, des clés privées. Elle va en générer pas beaucoup, en fait, elle va en générer 4. Et elle va générer 4 clés privées, donc elle va générer les clés publiques associées. Et l'idée de cette machine, donc l'idée aussi, c'est qu'elle génère du son à la fin de chaque génération de clés. En général, des petits morceaux de film qui sont un peu drôles et qui visent à rappeler à l'utilisateur de la machine les échelles de grandeur sur lesquelles est basée la sécurité de génération de clés asymétriques. Et voilà, et du coup, c'était une machine un peu pédagogique au fond, parce que l'idée, c'était que les gens puissent se référer, se représenter les ordres de grandeur qui sont derrière la sécurité d'un protocole comme celui de la génération de clés asymétriques, en disant qu'il y a, l'idée, c'est que quand tu joues avec la machine, tu pourrais potentiellement découvrir la clé d'un millionnaire, la clé de Vitalik. Ah, vous m'entendez encore ?
Ah oui, carrément.
Donc, effectivement.
Je croyais que tu pourrais découvrir la clé de Vitalik Buterin, par exemple, même s'il y a probablement un multisig, mais bon, admettons qu'il est une clé simple. Tu pourrais la découvrir, donc c'est possible, mais c'est hautement improbable. C'est hautement improbable parce qu'il y a autant de clés privées possibles que d'atomes dans l'univers observable, c'est 2 exposant 256 environ. Donc voilà, et l'idée, c'est que la machine souvent se fout de ta gueule en disant « t'as plus de chances de mourir dans un accident d'avion que de découvrir quelque chose ». Voilà. C'est globalement une machine dans laquelle tu mets des pièces, en général nos pièces, puisque c'est souvent moi qui vais à la boulangerie transformer du cash en pièces de monnaie que je mets ensuite sur la machine pour que les gens puissent y jouer. Et voilà, donc c'est une machine un peu drôle et pédagogique. Je dirais qu'elle avait vraiment une visée pédagogique parce qu'elle a vraiment été appréciée par les.
Je me souviens de cette machine.
Elle est géniale cette machine. En fait, c'est simple, c'est ça, c'est le grand loto des wallets. Mmh. Et donc théoriquement, en effet, il y a forcément une scène de caractère qui t'emmène à la clé privée d'un wallet sur lequel il y a quelque chose dessus, même potentiellement. Mais tu as une chance sur X milliards de tomber dessus.
C'est ça.
Donc en effet, c'est le grand loto de l'univers, quoi. Le grand loto de l'univers. Et donc ce body mancho, on reviendra dessus, mais on va revenir sur ton parcours aussi. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Là, c'est un protocole. En fait, c'est un protocole que vous avez créé dans le monde de l'art. Juste, tu peux nous faire un petit résumé en deux, trois phrases.
Alors, le nouveau protocole qu'on lance s'appelle Aside. Et pour le dire assez simplement, c'est un protocole qui permet l'immobilisation de n'importe quel NFT sur la blockchain Ethereum et qui l'immobilise, c'est-à-dire qu'il devient non transférable, inaliénable, dirait un juriste. Enfin un avocat, peu importe. Donc c'est un protocole qui permet l'immobilisation de n'importe quel NFT sur la blockchain Ethereum et qui va conditionner sa libération à des événements extérieurs. Donc par exemple, s'il y a de l'orage à tel endroit, le NFT est débloqué. Si l'inflation aux États-Unis passe sous les 1% ou dépasse tel pourcentage, le NFT est débloqué. S'il y a un tremblement de terre de magnitude 8 à New York, alors le NFT est débloqué, etc. Et pour faire une connexion entre la blockchain Ethereum, qui est plutôt considéré comme un média passif, je dirais, on utilise des oracles, et notamment les oracles de Chainlink, pour aller se brancher sur des API, toute une variété d'API qui vont nous permettre de récupérer de la donnée venue du monde extérieur. Donc ça peut être la météo, avec Travis Mallet, on fait un projet sur la météo, ces œuvres seront bloquées, et donc elles sont vendues bloquées, hein, et ensuite elles seront débloquables que quand il y aura du brouillard qui émergera dans certaines zones qu'il aura définies. Donc on a plein de cas d'usage, hein, peut-être, je ne sais pas si vous voulez que je vous présente les cas d'usage.
Alors on va rentrer dans les cas d'usage, mais juste pour rappeler le concept, donc c'est je pense que Rem t'a compris aussi, un système, un protocole qui, tout simplement, voilà, c'est comme l'équivalent d'un smart, c'est qu'un smart contract, sauf qu'au lieu de dire simplement pour que le NFT soit transféré ou soit justement listable, vendable, utilisable, au lieu de dire que ce soit une somme d'argent, par exemple, simplement, là, ça va être des environnements externes qui vont conditionner, des conditions externes. Et donc, ça peut être la météo, ça peut être demain.
C'est ça.
L'élection d'un nouveau président, c'est quoi enfin, il y a différents événements. Et donc, quand tu dis que tu parles d'oracle, je pense que Rem, tu connais les oracles.
Oracle, au désespoir, au vieillesse ennemie.
Donc, oracle, qui en fait, tout simplement, oracle, en fait, c'est un mot qu'on utilise pour définir, on va dire, de la mise à disposition technique. Enfin, on va dire de l'input, on va dire de l'arrivée d'événements extérieurs à la blockchain dans la blockchain. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont on-chain, donc dans le smart contract, mais évidemment, la météo, elle n'est pas on-chain. Donc, tu vas avoir une agence de météo qui va te donner des informations. Et donc, l'oracle, en fait, c'est juste un moyen de transformer cette information en data qui va être utilisable dans un smart contract. Tu me dis si je me trompe, hein, Alex.
Non, c'est à peu près ça, ouais, carrément.
Donc le protocole, donc ça c'est, enfin nous, moi j'aime, on aime bien ce genre de choses, enfin Rem il aime bien aussi ce genre de choses, on va revenir un petit peu là-dessus, juste avant quand même, parce que Vous êtes un peu des petits bricoleurs fous, j'ai l'impression, là, de la blockchain. Il y a un mélange d'art, il y a une forte. Forcément, on voit qu'il y a la technique est un peu importante dans ce que vous faites. C'est quoi Distributed Gallery? D'où ça vient? C'est quoi ton parcours? Comment t'arrives là-dedans?
On est vraiment plusieurs. Moi, personnellement, j'étais en thèse à la fac à Rennes 2 avec un autre ami qui était en thèse aussi, Olivier, qui devait être là. Mais en fait, en 2017, on découvre la blockchain Ethereum et nous, on est pas mal investi dans les mouvements politiques plutôt à l'extrême gauche. Et on avait. Enfin, en fait, quand on a découvert ça, enfin, quand on a découvert Ethereum, on l'a aimé. On a aimé Ethereum pour le caractère indélébile de l'écriture qu'il offre, c'est-à-dire le fait de pouvoir, voilà, enfin, le côté l'immutabilité, tout ça, quoi. Et du coup, on a trouvé ça assez marrant parce que du coup, ça se présentait un peu comme un monde en soi, quoi. C'est-à-dire quelque chose sur lequel l'État pourrait pas mettre la main. Donc après, évidemment, ayant déjà des affinités avec la crypto-anarchie, disons l'anarchisme de manière générale. C'est quelque chose qui nous a plu et en fait très vite cette idée de très vite on a eu l'idée de faire un ready-made hein, comme Duchamp et Warhol et d'autres après on en fait et nous on s'était dit on va faire un ready-made mais en fait on va prendre un token ERC20 et on va le minter en un seul exemplaire et on va dire c'est un ready-made, c'est le ready-made token. Donc l'acte du ready-made étant que c'est le pointé performatif de l'artiste qui transforme un objet commun en œuvre d'art, ben nous on s'est dit on va faire pareil, sauf que le problème c'est qu'on était personne, parce qu'on était juste des doctorants à la fac, avec d'autres amis d'ailleurs, Nolwenn qui était écrivaine à côté, d'autres potes quoi. Et on s'est dit il faut qu'on utilise on va utiliser un prénom connu, donc on a utilisé un prénom très connu qui est celui de Richard Prince, donc on a signé l'œuvre du nom de Richard Prince, et ensuite on s'est dit, mais en fait, il nous faut une galerie. Alors, notre Richard Prince, en l'occurrence, c'était juste un compte Twitter avec une photo de CryptoKitty dessus, mais est-ce qu'on n'a jamais fait de connexion réelle entre le vrai Richard Prince et notre Richard Prince. Et ensuite, on s'est dit, il nous faut une galerie, et là, on s'est dit, vas-y, on va la faire, on va faire un site web. Du coup, on a fait un site web Distributed Gallery dans laquelle on présentait notre Richard Prince, et ensuite, on s'est dit, mais il nous faudrait une mise aux enchères, et du coup, on s'est dit, en fait, on va faire un smart contract pour mettre aux enchères ce token, et puis on va lancer ça sur Twitter, et on verra si les mondes de l'art viennent ou pas. Puis il s'est avéré que très vite, il y a pas mal de mondes de l'art qu'on croquait à l'appât, qui étaient lancés. Alors très vite, ça s'est transformé en accusation de scam, jusqu'à ce que Jason Bellis reprenne l'affaire, pour montrer qu'en fait le projet était plutôt artistique, et que c'était un pastiche, une parodie, et qu'en fait on n'avait jamais menti. Et donc la Distributed Gallery, elle est née comme
Vous
ça.
avez eu, vous avez eu des accusations de scam parce que vous utilisez Richard Prince, ça?
Juste parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Richard Prince s'est retrouvé invité à un gros événement à New York. Et Richard Prince a commencé à tweeter lui-même des trucs sur le ready-made token. Et là, Jason Bailey, donc Artnome, donc Rightkick Save maintenant, mais à l'époque, il avait juste le blog Artnome, il a repris l'information, donc cette information qui concernait la diffusion du ready-made token, et le fait que Richard Prince s'est retrouvé invité, c'était le NFT Festival, je sais pas quoi, un truc à New York. Et en fait, à un moment donné, il y a un mec qui nous. Enfin, le manager de Richard Prince nous a appelé en nous disant c'est trop drôle ce que vous avez fait, Richard Prince adore et tout. Et après, on s'est fait connaître après parce que le New York Times nous a appelé aussi pour dire ah, mais c'est quoi cette histoire et tout. Et en fait, ça avait donné lieu à un article dans le New York Times qui présentait un peu le ready-made token, ce qu'on avait fait. Donc en fait, on était très surpris parce qu'à la fois, c'était notre première œuvre et puis très vite, elle nous a donné un petit peu de notoriété.
C'est quand même énorme. Enfin,
Ouais, c'est une histoire assez drôle, ouais. Mais elle a été bien documentée par Jason. Elle est aussi documentée un peu dans l'article du New York Times quand même. Je sais plus. Je crois qu'il y avait eu d'autres trucs décrits ailleurs. Enfin bon, à l'idée c'est que c'est un peu comme Dada. Nous on se considère très proche de Dada. L'idée c'est de considérer l'art comme un jeu et là c'était vraiment un jeu au sens d'une parodie, d'un pastiche qui mettait en question. Enfin, l'idée c'était pour nous de mettre en question c'est quoi les notions de célébrité dans la définition de la valeur d'une œuvre d'art, puisque quand les organisateurs du festival nous ont écrit, ils ont dit ah mais c'est génial ce que fait Richard Prince, on adore l'œuvre et tout, c'est trop cool. Est-ce que vous auriez une bio et une photo de Richard Prince ? Et j'avais juste répondu, Richard Prince est une figure publique, faites-en ce que vous voulez. Et c'était une figure publique, puisque j'avais créé mon compte Twitter avec Richard Prince, tout ça. Et donc, évidemment, eux, ils ont fait le jeu d'association en associant leur Richard Prince, au fond, c'est-à-dire le célèbre Richard Prince, au nôtre, quoi, en fait. Mais en fait, à partir de là, ça a commencé à buzzer. Les gens ont commencé à interpeller le vrai Richard Prince, qui, du coup, réagissait un peu, parce qu'il a l'air un peu drogué, je pense qu'il prend des trucs. Non, c'est vrai, je pense qu'il est, il est def, en fait, un peu. Et du coup, c'était assez marrant, parce qu'il répondait à des trucs... en mode, je ne sais pas ce que c'est qu'un token, mais j'ai fait des tokens, mais tu vois ça. Et du coup, les gens ne savaient plus trop. Jusqu'à ce que le poteau rose soit révélé.
C'est rigolo. Rem, ça te parle, ça, non ? T'aimes bien, non ?
Ouais, ouais. J'essaye de remettre tout dans l'ordre, là, pour l'instant.
Ouais, désolé, j'espère que c'est à peu près ferme.
Le ready-made, ça, c'est cool, donc. Vous avez un background, enfin vous étiez chercheur dans la tech plutôt, quoi, vous êtes d'accord?
Bah on était des geeks, ouais, bah mais oui, bah mais après plutôt, moi je faisais plutôt une thèse, je dirais, c'était des thèses en infocom, mais c'était plutôt une thèse de, moi je dirais, philosophie du numérique, quoi. Mon pote Olivier, lui aussi a un background, il a fait Supélec avant.
Très bien, donc. Donc, premier projet, et là, vous vous êtes dit, bah attends, on tient un truc.
Bah, après, ouais, on s'est dit, du coup, ça a fait marrer pas mal de gens. Et après, bah, Simon Denis, je sais pas si vous voyez Simon. Simon Denis, qui est un artiste qui a organisé pas mal de trucs, qui a fait beaucoup de choses autour de la crypto, nous invite après, en 2018, à participer à la curation et à créer une œuvre pour une exposition au pavillon Schinkel à Berlin. Et là, on craque complet, et là, c'est là qu'on va créer les Chaos Machines, qui sont deux grosses machines de 100 kilos qui brûlent des billets de banque et qui jouent de la musique. Et là, on va créer ça, et on va partir à Berlin en voiture, et on va exposer les œuvres physiques. Alors, pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on avait aussi des amis menuisiers et tout, et l'idée de faire des œuvres physiques nous excitait un petit peu, et on avait déjà depuis longtemps l'idée de faire un réseau de jukebox connectés, où dès que quelqu'un met une pièce dans un jukebox, tous les autres jukebox, peu importe où ils sont dans le monde, se mettent à jouer la même musique. L'idée, c'était de recréer quelque chose comme une communauté d'écoute, parce que les notions de communauté et tout étaient des trucs qui nous traversaient politiquement. Et du coup, on avait cette idée de faire un réseau de jukebox connectés, et en fait, après, l'idée, on s'est dit, mais en fait, ce serait drôle que que les gens insèrent des billets de banque, que ces billets de banque brûlent sur une résistance électrique et que l'argent brûlé génère un token ERC20 qui donne l'autorisation aux gens qui ont brûlé un billet de rajouter des sons dans la playlist jouée par les machines.
Et on l'a fait. Ça brûle vraiment des billets ?
Ah oui, on a brûlé beaucoup, ouais. Bah oui, parce qu'elle a été exposée. Ensuite, on avait deux machines connectées l'une à l'autre, l'une au pavillon Schinkel, une autre chez Fullnode. À Berlin, Fullnode étant un espace de coworking dans lequel notamment Gnosis est implanté. Et ensuite, une machine a été exposée à la galerie Kaidvas. Et puis une autre qu'on avait abandonnée dans un bar, et les deux étaient connectés ensemble. Et donc c'était très drôle. Par exemple, à la galerie Kaidvas, il y avait une exposition et il y avait un mec qui était venu vendre son produit, qui faisait une conférence pour vendre, je ne sais pas quoi, un énième truc de certification. Et j'avais envoyé un message au mec du bar à Berlin, je leur avais dit brûlez des billets. Et il s'était mis à brûler des billets, du coup il y avait du son qui était sorti à donf dans la galerie, et le mec pouvait plus parler, on n'entendait plus sa conférence, c'était très drôle. Donc voilà, oui, c'était des machines comme ça, et maintenant on n'en a plus qu'une, parce qu'après on en a vendu une pendant la FIAC en fin 2019, je crois. Et ensuite, elle a été vendue, revendue, revendue.
Donc vous étiez à la FIAC, il y a eu des... C'est qui l'acheteur de ce genre de choses, à la base ?
C'est un spéculateur. Le mec, mais un pur spéculateur, il l'a acheté que dalle. Il l'avait acheté 3 000, puis elle a été revendue 15 000, puis là, elle a été revendue 40 000. Mais nous, on n'a plus la main là-dessus, on ne touche rien. Mais ouais, c'était un spéculateur plutôt, quoi. C'est assez décevant d'ailleurs. Et maintenant, je sais pas, c'est un mec à Dubaï qui l'a. Il m'écrit de temps en temps, mais il a l'air un peu. Du coup, il a l'air un peu déconnecté. Donc je sais pas trop, j'attends.
J'adore. Mais oui, évidemment, vous ne touchez pas de royalties quand il y a des ventes là-dessus.
Si, tu peux les réclamer, mais c'est que dalle. Donc nous, on n'a jamais gagné d'argent. On est vraiment resté dans la... On ne sait même pas pourquoi on continue, d'ailleurs, vraiment.
Mais, non, mais toi, tu fais quoi à côté, du coup, tu te...
je donne des cours à la fac, un peu. Et en vrai, j'avais acheté un peu de crypto en 2017, du coup, je suis toujours un peu dessus. Et voilà. Et puis sinon, bah oui, moi, j'enseigne, j'ai pas mal enseigné. Ce qui me rapporte de l'argent, c'est l'enseignement, quoi.
Oui, d'accord, très bien. Parce que forcément, j'imagine que vous avez quand même eu le temps d'entre-temps de publier vos thèses et d'avancer sur le cursus universitaire.
Bah il y a de ça, ouais. Puis, après, on n'est pas tout seul, hein, tu vois. Il y a les menuisiers, Gaspard qui est le menuisier, qui fait les machines, Xavier qui fait du hardware, et souvent, pour ces machines-là, on travaille chacun à distance, mais on paye tout le monde, et puis tout le monde travaille à distance, après on se rejoint, puis on assemble tout d'un coup.
Génial. Alors, ok, donc là, tout ça,
et ça c'est
les chaos de machine, les beaux dimanches chauds ensuite. Voilà. Ouais. Alors, ensuite, donc, non, mais c'est quand même ouf parce que vous êtes hyper pionnier, quoi. C'est-à-dire que vous étiez là, avant qu'on s'excite sur les NFT et qu'il y ait toute cette vague, quoi.
Bah oui, quand ton profile pique, il valait 10 balles, ouais.
C'est ça.
Mais pionnier, je dirais plutôt, je sais pas trop. Après, les gens, particulièrement en France, ils adorent avoir le prestige ou la gloire du premier arrivant, là. Donc, moi, je dirais juste que bon, on a fait des machines un peu que personne ne fait vraiment et qui sont belles. Je pense que c'est vraiment des belles machines. Sur le travail du menuisier, des menuisiers, Acmelen aussi, là, sur la. C'est vraiment un beau travail de menuiserie et. Et je crois que c'est simple dans l'exécution et ça plaît. Enfin, les gens s'amusent, quoi. Donc, c'était un peu important.
Donc, c'est ça. Enfin, je pense que c'est vraiment... Enfin, je pense que d'ailleurs, c'est pas pour rien que vous êtes retrouvé très, très vite, enfin, par défaut, reconnu, malgré tout, intégré dans le circuit de l'art contemporain.
Ouais.
Physiquement la machine claque, on est quand même.
Puis les gens sont assez friands d'avoir des œuvres physiques souvent dans des... C'est assez dur d'exposer du NFT ou des œuvres numériques de manière générale. Enfin, ça rend pas toujours bien, donc c'est vrai que les gens en général sont contents d'avoir une machine physique. Surtout des machines qui sont pas des machines sacrées, c'est-à-dire que t'es pas juste là pour regarder ou pour comprendre, t'es là pour utiliser. Donc c'est un peu différent, quoi.
Bien sûr.
Et ça, c'est un peu essentiel, quoi. Puis c'est vrai qu'une Chaos Machine, par exemple, a la particularité de. Elle mobilise beaucoup les sens, puisque tu insères le billet, tu vois le billet tomber, tu vois le billet brûler. Ensuite, ça sent le brûler, mais il n'y a pas de fumée parce qu'on avait mis un petit filtre à charbon. Ensuite, t'as la musique.
Elle est où votre deuxième machine, là, enfin,
la deuxième machine, elle est dans un garage à Douarnenez. Point de Bretagne. Et il faut qu'on la répare parce qu'on l'a laissé à des mecs à Berlin en 2019. On l'a récupéré, je crois, en 2021. Et les mecs, ils l'avaient démonté. Ils avaient essayé de la brancher sur Bitcoin, mais ils avaient fait n'importe quoi. Et du coup, faut la réparer, quoi. Donc, l'autre est à Dubaï chez l'autre, là. Je sais même pas son prénom.
D'accord.
Et il faut, je sais pas, je crois qu'il veut m'écrire pour qu'il faudrait qu'on fasse une mise à jour, je sais pas quoi.
Ah, d'accord. Ouais, parce qu'il y a de la maintenance sur les machines.
Oui, ça c'est un peu chiant. Le plus chiant, c'est les fils résistifs qui pètent. Mais c'est pas arrivé énormément. Mais il y a de la
maintenance. Alors attends, juste c'est vrai qu'on a parlé des machines, mais pour revenir un petit peu au projet actuel.
Ouais.
Donc, comment il s'appelle c'est quoi? Il a un nom, ce projet? Enfin,
ouais,
comment
alors, pour revenir sur l'histoire, au début, ça s'appelait Freezeit. En fait, l'idée, elle est partie du fait que j'avais un squiggle et genre, je ne savais plus quoi en faire, s'il fallait le vendre ou pas. Et ça faisait un peu flipper. Et j'aimais pas ça. Enfin, j'aime pas du tout ces trucs de marché et tout. Enfin, les fluctuations de prix et tout. Et en fait, c'est un truc, j'ai juste découvert que j'en avais un, tu vois. J'avais oublié que j'avais minté ce truc-là. Mais en fait, ça valait de la thune à un moment. Et tout a commencé...
Ça vaut toujours un petit peu, ouais.
toujours un peu, ouais. Mais et tout a commencé. J'ai dit à mon pote Olivier un soir, je lui ai dit, mais en fait, il faudrait faire un protocole pour time-locker les œuvres, comme ça, les collectionneurs qui s'inquiètent ou qui se stressent, bah, en fait, ça permettrait de les éloigner des stress générés par le marché, par la valeur, par tout ça, quoi. Du coup, juste très simplement, en fait, du time lock à la fois pour du coup créer de la protection psychique pour les collectionneurs qui ont peur.
Et un time lock, tu te dis, il faut pouvoir se dire, par exemple, je vends pas pendant un an, ouais, et fin de l'histoire.
C'est ça, ouais. C'est, tu te dis, ouais, un time lock, c'est de dire pendant les. Même tu peux te dire, j'ai une confiance à long terme dans le projet, je bloque mon NFT pendant 10 ans. Je pourrais plus le débloquer une fois qu'il est bloqué.
C'est un hodl par défaut, quoi.
Ouais, voilà. Et donc l'idée, elle est d'abord partie de là. Et en fait, au début, on a voulu commencer à créer une collection d'œuvres qui serait time lockée. Et puis après, on s'est dit, ah, mais on avait vu ce qu'avait fait Matt Cain avec Gazer. On s'est dit, mais en fait, c'est vrai que si tu considères Ethereum depuis une fenêtre, si tu fais ta maison dans Ethereum et que tu as ta petite fenêtre, tous les événements du monde extérieur, tu pourrais aussi les utiliser pour débloquer les œuvres. Et du coup, il y a deux types d'événements, les événements précalculables, les mouvements des marées, les mouvements de la Lune, les mouvements des astres, les dates d'anniversaire, tout ce qui est précalculable et dont on peut avoir des tables de prévision simples et robustes. Et puis ensuite, bah, tout ce qui vient avec les API. Et en fait, après, le projet a un peu dérivé. Parce qu'au début, on voulait vraiment faire que du time lock à viser où n'importe qui peut, un protocole générique où n'importe qui peut time locker son œuvre pour la soustraire aux forces du marché. Et ensuite, on s'est dit, ah, mais ce serait marrant que, en fait, les œuvres, non seulement elles soient soustraites aux forces du marché, mais qu'en plus, leur retour sur le marché soit lié à des événements imprévisibles, type, bah, tu vois, orage, hauteur de vague,
ouais,
enfin d'autres trucs. Et en fait, après, bah, on a fait des partenariats avec plein de gens. Et puis il s'avère que, ouais, maintenant on a une douzaine d'artistes qui sont trop stylés. Je sais pas si les noms.
Bon.
Bah, les noms qu'on a, là, on commence avec Obvious et Ivonato en mai, fin mai, ça va être, on va faire l'annonce bientôt. Le protocole, donc c'est des œuvres.
Les gars, vous savez que vous n'êtes pas marketing pour un sou, quoi. C'est-à-dire que tu m'as envoyé plein de messages, tu me dis même pas que tu fais des trucs avec Obvious et Ivonato, quoi.
Ah ouais, c'est vrai. Non, ouais. On n'est pas très fort là-dessus, mais c'est pour ça que je me suis associé avec d'autres gens. Parce que là, ça se fait sur Verse, donc je laisse un peu à Verse le soin de.
Oui, en fait, Verse, donc c'est Verse, donc la plateforme Verse. D'ailleurs, Rem vient de nous quitter, mais il est très, très, très fan de Verse.
Ouais.
C'est Verse, en fait, qui utilise votre technologie pour faire des drops, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et nous, on pose la tech et on s'occupe du partenariat avec tous les artistes. Alors après, tous les articles qui vont être publiés, c'est nous qui les écrivons aussi. Mais pour le moment, on reste un peu silencieux, c'est vrai. Mais ouais, le premier drop, c'est donc Obvious et Ivonato. C'est un drop un peu particulier. Parce que quand on leur a présenté Outside, ils nous ont dit « Ah, vas-y, c'est trop cool ». Et je leur ai dit, mais sur quel type de phénomène vous aimeriez que vos œuvres soient débloquées? Et du coup, ils nous ont dit, bah, le sentiment des gens envers l'IA. Et là, j'étais là.
Wow, non, what, énorme.
En mode, what the fuck. Et du coup, on a un peu galère au début. Au début, on a commencé à utiliser les API d'ArcSife pour essayer de scraper des papiers scientifiques qui estimeraient qu'eux et tout. Mais en fait, l'API, elle ne marchait pas bien. Et en fait, du coup, ce qui va se passer là, c'est qu'on a une jauge. Alors,
pour les gens non techniques, en gros, c'est quelle est la métrique qui arrive, ouais, à traduire le plus simplement possible le sentiment négatif vis-à-vis de l'IA. Il y a une évolution claire là-dessus, quoi.
Alors, je vais te le dire, ce qu'on a choisi de faire, c'est que du coup, on utilise X, enfin Twitter, quoi, tu vois,
ouais.
Et on récupère.
X, c'est pas mal en termes de sentiment négatif.
Ouais. Détrompe-toi. Enfin, ça dépend. Mais du coup, on utilise X et on récupère un nombre de hashtags positifs envers l'IA, qui traduisent des sentiments positifs envers l'IA, et un nombre de hashtags négatifs qui traduisent des sentiments négatifs envers l'IA. Donc, par exemple, positif, ça va être AI Optimism, AI for Hope, AI for Good, des trucs comme ça. Et les hashtags négatifs, ça va être AI Concerns, AI
D'accord.
Fear,
En fait, vous avez
etc.
fait une préliste, une sorte de préliste de, je sais pas, n'importe quoi, une
Ouais,
cinquantaine d'hashtags
c'est ça.
plus et moins.
Ouais.
Et vous les avez suivis, j'imagine, pendant un
Et
certain temps.
alors, et
Voilà,
on a,
plus sûr.
du coup, on a un script qui les récupère, qui récupère tous ces hashtags-là sur les 7 derniers jours. Le script se met à jour, enfin le calcul que le script effectue se met à jour toutes les heures, il fait simplement un ratio entre le positif et le négatif. Ça donne un chiffre entre 0 et 100, 0 correspondant à la peur extrême et 100 à l'enthousiasme BA. Et du coup, entre 0 et 100, ça fait 10 intervalles de 10, tu vois. Et en fait, dans chaque intervalle de 10, il y a 10 NFT. Dès que la jauge, elle touche un des intervalles, les 10 NFT sont libérés.
Alors, elle est à combien la jauge aujourd'hui, par exemple?
J'ai regardé ce matin, elle est à 58.
Donc, le sentiment général vis-à-vis de l'IA, c'est 58. Bon, c'est 50-50. Donc, si.
Ouais.
Donc, il faut que ça baisse pour débloquer, on est d'accord?
Non, bah, toutes les œuvres qui sont dans la tranche 50-60 sont débloquées là. Enfin, bah, si,
Ah, ok, il faut que ça change de tranche dans un sens ou dans l'autre.
c'est ça.
Donc, imaginons, bam, il se passe quelque chose d'assez positif grâce à l'AI. Il y a des vies
Ouais.
qui ont été sauvées, il y a un fait divers, machin.
Ouais.
On passe de 58 à 61.
Ouais.
Tac,
Tous les œuvres dans la
10
tranche
œuvres sont
60-60.
débloquées.
C'est ça.
D'accord. Très bien. Et de la même manière, donc une fois qu'elles sont débloquées, donc voilà, donc ça peut vivre. Enfin, il y a peut-être des œuvres qui seront jamais débloquées parce que peut-être que la tranche 0 à 10 sera
Ouais.
jamais atteinte, par exemple. Mais on...
Alors, là, je préviens quand même, c'est une expérimentation. C'est d'ailleurs la plus compliquée de toutes, celle-là. Du coup, on a décidé pour cela que les œuvres seront bloquées pendant 3 ans maximum. Donc, au bout de 3 ans, on débloquera tout. Mais
D'accord, oui. Donc il y a quand même.
ouais.
Voilà. Et alors attends, quand on dit débloquer, j'essaie de comprendre.
Ouais.
Là, donc il va y avoir une vente sur verse de
Ouais.
ces 100 œuvres.
Ouais. C'est
Elles
ça.
vont être vendues de manière individuelle
Ouais.
aux enchères, ou j'imagine, ou je sais pas.
Ça, je sais pas, c'est pas moi qui
Bon,
décide.
imaginons, voilà, comme ils font des fois une peut-être, voilà, je sais pas, une bucket auction ou un truc comme ça. Donc, tu as les 100 qui achètent leurs œuvres. Il y a peut-être un random qui va être donné. Enfin, je sais pas, bon, quelque chose. Paf, tu te retrouves avec l'œuvre 1, 58, 63. Forcément, il peut y avoir des notions de valeur. Du coup, un peu, ça peut jouer là-dessus parce que tu en as qui ont de fortes probabilités d'être débloqués un jour. Tu en as qui n'en ont pas du tout. Et donc, ça peut un peu jouer sur des comportements autour de ça aussi. Quand
Possible.
elle est bloquée, ton œuvre, donc
Ouais.
par défaut, elle est bloquée.
Ouais.
Bloqué, ça veut dire quoi? Ça veut
Elle
dire non listable, non transférable, c'est
est
ça?
non transférable, ouais, tout à fait.
Non transférable, tout simplement.
C'est ça.
Donc il y a la fonction transfert en fait qui se rajoute, enfin qui se débloque
Ouais.
si du coup ces conditions externes de Twitter sont
Ouais.
et donc ça passe par votre.
Qui sont validés par Chainlink après. Donc on a l'API, on valide par Chainlink et après si jamais elle a atteint tel endroit de la jauge, elle revient au smart contract, le smart contract dit bah ça y est, l'œuvre est libérée, mais elle est libérée pour toujours. Ouais.
Génial. Et alors, du coup, pour ceux qui connaissent pas bien Chainlink, tu peux expliquer un peu leur rôle dans ce
Ouais,
système d'oracle
bah.
également?
Alors, Chainlink, du coup, c'est un réseau d'oracles. Donc, un réseau d'oracles, on pourrait dire que c'est un système de smart contract qui va permettre d'injecter, enfin, puisque tu disais tout à l'heure, hein, qui va permettre d'injecter des données issues du Web 2 à l'intérieur du Web 3. Pour ça, ils utilisent ce qu'ils appellent un Decentralized Oracle Network. C'est un réseau de nœuds qui vont, par exemple, permettre de vérifier les informations, d'être sûr que tout le monde a bien la même information. Et du coup, une fois qu'on est sûr que tout le monde a bien la même information et qu'on a fait consensus autour de ça, et ben on peut s'amuser à injecter de la donnée. Chainlink, à l'origine, était un projet qui se présentait pour dire on va permettre de faire venir n'importe quel type de données dans la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, 99% de la donnée que Chainlink va injecter dans Ethereum, c'est majoritairement de la donnée financière. Bah, c'est pour avoir le prix des assets, de tous les assets en fait. Hein. Donc tous les DEX, ils vont utiliser Chainlink, tu vois. Donc c'est majoritairement de la donnée financière. Mais il y a toujours eu ce truc pour Chainlink de dire, Ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir des cas d'usage où on va injecter d'autres types de données, de la météo. Tu vois, bah, ça peut être là des feeds d'API de Twitter. En fait, n'importe quelle API.
D'accord. Mais là, les feeds d'API de Twitter, c'est quoi ? C'est vous qui l'avez créé, le flux là, enfin, le
ouais. Feed. Bah nous, on crée nos oracles, en fait. On utilise une technologie qui s'appelle Chainlink Function, qui est récent chez Chainlink, mais qui permet de grandement, mais très grandement, simplifier la connexion entre ton smart contract et une API. En fait, Chainlink te dit juste, toi, fais ton script, run ton truc, connecte-toi à Chainlink Function. Ton contrat, il hérite d'un smart contract de Chainlink. Et en fait, Chainlink facilite grandement juste le fait de se brancher sur n'importe quelle API.
Très bien. Mais aussi, j'imagine qu'ils garantissent un petit peu que vous n'allez pas faire n'importe quoi sur le données, j'imagine.
Nos données, nous, on a les API, on fait des appels aux API, et ensuite, les données, elles sont validées. Pour le reste, concernant notre code, Chainlink a déjà review le code. Hein,
mais c'est ça, non, mais il review, mais j'imagine que vous n'avez pas la possibilité de changer votre code comme ça, par exemple.
Ah bah, une fois que le contrat sera déployé, ouais.
C'est ça, enfin, j'imagine qu'il y a des moyens, enfin, j'imagine que c'est une partie de leur job dans ce qu'ils font, c'est aussi de mettre une forme de confiance dans... Ouais, ouais. Mettre de la confiance dans la donnée qui va être ajoutée au smart contract, quoi, tout simplement.
Ah bah oui, bien sûr, ouais. Oui, bah bien sûr, ouais. Bah Chainlink, bah de toute façon, s'il y a un problème avec Chainlink, tout l'écosystème a un problème. Hein. Enfin,
très bien, très bien. Okay. Donc il y a ces premières ventes. Alors, elles vont avoir lieu quand, ces premières ventes sur Verse avec...
Alors, ça, c'est le 29. Enfin, ce sera sûrement le 29 mai, mais on attend une dernière confirmation. Et après... Après le 29, on fait... Bah, si vous voulez, je peux vous présenter les cas d'usage que je connais.
À fond.
Donc, le 29, on fait ça. Le mois d'après, là, j'ai reçu les offres. C'est trop beau ce qu'il a fait. On travaille avec Jared Tarbell. Je ne sais pas si vous voyez Jared Tarbell. Jared Tarbell, c'est le cofondateur d'Etsy et c'est un des pionniers de l'art génératif à sa manière. Enfin, pas pionnier, mais disons qu'il a fait beaucoup de choses... Donc, on a un peu marqué les artistes dans ce domaine-là. Et avec lui, on fait un truc assez simple. Il y a 260 œuvres différentes qui vont être débloquées soit à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune et pendant les 3 et 10 œuvres pendant les 3 prochaines éclipses. Ce sera en juin et ça s'arrêtera en septembre 2025.
D'accord.
Donc 10 œuvres seront débloquées à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune jusqu'en 2025, ainsi que 10 œuvres pendant les 3 prochaines éclipses. Okay. Donc ça, c'est assez simple aussi, c'est très beau ce qu'il a fait. Ensuite, on fait un drop avec Rhea Myers. Je ne sais pas si vous voyez Rhea. Rhea, elle a fait beaucoup de protocoles art avant. Rhea, elle a fait un truc très simple qui est très drôle, hein, c'est juste... Les œuvres, elles sont bloquées tant que l'Ether n'atteint pas 10 000.
Voilà.
Donc,
tout simplement. Donc, c'est OK, on a ces mécaniques de déblocage à chaque fois.
Ouais. Donc, là, il y a ça. Après, il y a Travis Mallet, qui lui, du coup, va faire des œuvres qui sont liées à des points à des coordonnées géographiques, donc des coordonnées, quoi. Et dès que du brouillard émerge à certains endroits, les œuvres se débloqueront. Alors, les œuvres, évidemment, résonneront esthétiquement avec sa démarche. Je n'ai pas encore tout à fait précisé les mécanismes, mais je crois que c'est vraiment dans cette direction-là qu'il veut aller. Pour ça, on utilise OpenWeather API, qui est une API très robuste, très, très robuste, parce que là, depuis très longtemps. Et donc, voilà. Ensuite, on fait avec Anna Riddler. Anna Riddler, je ne sais pas si vous voyez un autre artiste très connu de... qui a fait beaucoup d'IA art, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et alors, elle, comme elle avait déjà beaucoup travaillé autour de la Tamise, elle va faire un truc qui est un peu différent, c'est que les œuvres ne sont vendables, je crois que c'est ça, je crois que les œuvres ne sont vendables que pendant les 2 heures de la marée basse de la Tamise, parce que la Tamise est un fleuve à marée, que pendant les 2 heures à marée basse, elles sont vendables. Et ensuite, elles sont plus vendables. Et ensuite, elles redeviennent vendables à chaque les 2 heures de marée basse. Et les œuvres évolueront aussi dynamiquement en fonction de... En fait, elles vont s'obscurcir en fonction de la marée haute ou de la marée basse. Donc, elles évolueront dynamiquement en fonction des mouvements de la marée aussi. Donc, c'est la première à intégrer dans le projet Eusite cette idée d'une évolution dynamique des œuvres avec les phénomènes extérieurs qu'on récupère. Et du coup, elle a fait le choix de faire ça. Donc, ça va très beau. Moi, je suis très grand fan d'Anna Riedler. Donc, je suis plutôt très, très heureux de travailler avec elle parce que j'adore ce qu'elle fait. Donc, voilà. Donc, elle travaille sur les marées. Ensuite, on a Hubert Morgan. Hubert Morgan, c'est un collectif d'artistes. Alors, je crois qu'ils sont suisses à la base et berlinois. Ils sont basés à Berlin maintenant. C'est des vieux de la vieille du digital art. Ils se sont fait connaître dans les années 2000 parce qu'ils avaient, notamment autour d'un projet où ils avaient mis en vente, ils avaient fait un site pour mettre en vente les bulletins de vote où les Américains pouvaient venir pour vendre leurs bulletins de vote. Du coup, ils s'étaient tapés 6 procès. De différents états, le Missouri, je sais plus quoi, enfin plein d'états. Ils s'étaient fait connaître un peu pas mal de trucs comme ça, très engagés. Et eux, on n'est pas tout à fait sûr encore, mais on va probablement utiliser l'API de Wikipédia pour débloquer les œuvres en fonction de certains événements politiques. Par exemple, si le président de la Fédération de Russie n'est plus Vladimir Poutine, alors l'œuvre est débloquée. Tu peux faire, ou si Larry Fink n'est plus à la tête de BlackRock, alors l'œuvre se débloque.
Donc il y a plein d'usages. On voit bien en fait qu'après la limite, c'est la créativité de l'artiste, quoi.
Ouais, c'est ça. Et après, il y a Primavera de Filippi que vous devez connaître, et qui elle fera sur les ressources naturelles. Et le dernier projet que je connais, c'est Adi, mais j'arrive pas à prononcer son nom de famille, Adi Venstak. Qui elle fait des œuvres qui évoluent dynamiquement en fonction des tremblements de terre et se débloquent à haute magnitude.
D'accord, ok.
Mais à la fin, il y aura Matt Cassel aussi. Et ça, c'est cool. Le dernier, Matt Cassel, ouais, qui sera en dernier, mais il bloquera des œuvres déjà existantes. Et du coup, il faudra faire évoluer notre contrainte.
D'accord, donc des œuvres qui existent déjà qui vont être bloquées.
Ouais.
D'accord, ok. Alors, c'est excitant tout ça quand même. Enfin, j'imagine que c'est. Là, ça vous fait du boulot quand même.
Ouais, moi j'avoue, je suis un peu. Ça fait de la gestion d'équipe, de l'écriture. Puis moi, je gère tous les artistes, enfin les discussions. Donc, oui, c'est du taf. Après, c'est excitant. Et puis moi, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Alors, je suis content que ça prenne forme. Et puis, à Verse, on travaille avec Mimi Nguyen qui est très très forte. Donc, c'est agréable de bosser avec des gens comme ça.
Carrément. Minguen, en fait, qui est très calé aussi, qui va très vite aussi.
Oui, ouais. Donc, voilà un peu le
projet. Génial. C'est génial. Et bah, c'est super. Mais du coup, aussi, bah, d'ailleurs, financièrement, potentiellement, il y a peut-être des. Ça peut peut-être faire un petit peu d'argent, finalement, cette histoire.
Ouais, ça peut. Après, nous, on prend un tout petit pourcentage. On n'a pas bien négocié, peut-être. on prend 20% et on est deux. Bon, après, voilà, ça peut être intéressant quand même. Après, moi, je suis content. Si les œuvres, elles se vendent, c'est bien. Et c'est vrai que ce serait bien. Ce serait la première fois depuis 2017 où on fait un projet qui a clairement une vocation à faire de l'argent. Mais c'est la première fois.
Mais, d'accord, ouais. Oui, non, mais c'est quand même une évolution pour vous, parce que moi, je vois bien, pour avoir suivi un peu de loin ce que vous faisiez, à chaque fois, bon, c'est des, on va dire des expos, et donc ouais. Un projet très lié à une expo. Là, vous rentrez quand même dans le game de la vente, d'art contemporain, quoi.
Ouais, ça, on a un peu changé d'étape. Mais alors après, j'espère que tout va bien se passer, mais bon, j'ai pas trop de doutes. Mais ouais, puis c'est cool en fait. Bon, c'est assez marrant d'expérimenter. Bah, tu vois, comme là, le projet avec la jauge Twitter, c'est drôle. Quoi. Enfin, ça, c'est la calibrer correctement. Parce qu'au début, on voulait la faire avec ChatGPT. Et c'était drôle parce que du coup, tu demandes à ChatGPT si tu devais évaluer entre 0 et 100 le sentiment des gens sur l'IA, ce serait quoi. Mais le problème, c'est que ChatGPT n'est pas mis à jour. Enfin, il n'est pas mis à jour. Il n'est pas
connecté à Internet en live, ouais.
Bah, il a des archives qui datent de, je sais plus, moi, quand j'avais essayé, c'était juin 2023, je crois. Mais ils sont mis à jour de temps en temps avec leur base de données sont mis à jour, mais bon, il est pas mis à jour, tu vois, à l'heure, quoi.
Ouais, en temps réel, bien sûr. D'accord, très bien. Donc, voilà. Le meilleur moyen de le suivre, là, le projet, c'est c'est de suivre quoi, Distributed Gallery
derrière. Ouais, bah, de suivre Verse, de suivre Mimi surtout, Verse et Mimi, et bah, Distributed Gallery aussi. Dans notre tweet qui est piné, il y a un lien vers le site qui présente le protocole, tout. Il y a un light paper technique, il y a tout. Et
Ouais, parce que
après, il y
j'imagine
a des.
qu'il y a d'autres perspectives. Maintenant que enfin, là, ça va forcément intéresser d'autres plateformes d'art de
Ah,
s'en prendre.
c'est probable, ouais, c'est probable, c'est probable. Ouais, ça, je sais pas trop, je connais pas trop ce truc-là. Mais oui, il est probable qu'à un moment donné, ce truc-là de dire, déjà le fait d'utiliser les oracles pour faire de l'art. Alors, ça avait déjà été fait par Terra Zero. Terra Zero, qui est un groupe d'artistes berlinois, beaucoup centré sur les questions écologiques. Et eux, ils avaient déjà fait en 2021, ils ont vendu une œuvre chez Sotheby's qui s'appelle 2Degree NFT et qui est une œuvre qui dit cette œuvre pourrait être autodétruite si la température sur Terre, telle que demandée par le GIEC ou je ne sais plus quel organisme, atteint les 2 degrés. Enfin, tu vois, si on dépassait 2 degrés,
Et on augmente de plus de degrés d'ici 2000, je sais pas quoi.
c'est
D'accord.
ça, l'œuvre est détruite. En fait, elle n'est pas détruite. C'est que tu peux appeler le smart contract. Il n'y a pas d'automatisation. Mais tu peux appeler le smart contract pour détruire l'œuvre. Et ils avaient déjà fait ça. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on a continué ce mouvement sans trop d'ailleurs se référer, sans jamais vraiment se référer à eux. Mais on a continué ce mouvement, je pense, parce que aujourd'hui, le truc de Chainlink Function, là, permet vraiment de simplifier la connexion entre les données du Web 2 et le Web 3 de manière. Bah, ça facilite le taf. Et du coup, je pense que des artistes qui vont commencer à se dire, ah, mais en fait, ça pourrait commencer à être rigolo d'utiliser des données extérieures, des données du monde réel, et pour les injecter dans nos œuvres, je pense qu'il y a des fortes chances pour que, oui, ce qu'est en train de faire Chainlink facilite l'émergence de ces nouvelles formes, enfin, de cette forme d'art-là, en tout cas.
Bah, et j'imagine aussi que vous, ça vous donne des idées de faire d'autres actes éventuellement, pas que locker les tokens, mais éventuellement demain faire d'autres actions on-chain, je sais pas, les transférer, les brûler, faire d'autres choses, quoi.
Ouais, bah nous, après, je t'avoue, nous, on passera à autre chose. Je pense que ça, c'était rigolo, mais on a déjà un vieux, vieux projet qu'on aimerait faire, mais enfin, qui est vraiment le gros projet qu'on a, mais qui est autre chose après. Mais nous, je pense qu'on fera plus de. Le seul truc qu'on veut faire à la fin, c'est juste faire un protocole générique de timelock qui permet à n'importe qui de timelocker son CryptoPunk.
C'est ça, vous, ça reste l'idée originale. Enfin, ce qui vous intéresse, ben, c'est le point de départ, c'est le time locké, quoi.
Ouais, au début c'était ça, ouais. Et puis après, bah voilà, le truc avec les événements extérieurs, c'est rigolo. Enfin, tu regardes, par exemple, là, je sais pas, bah, c'est assez bête, mais disons que le rapport sensible que tu entretiens au monde, quand t'as une œuvre comme celle de Jared Tarbell, par exemple, qui va se débloquer à la nouvelle lune, bah, je sais pas, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rigolo de dire, à la fois l'œuvre est soustraite au marché, j'ai pas à me poser la question ni de la vendre, ni de même de penser à la spéculation, il faut que j'attende ma nouvelle lune, tu vois. Et puis ce soir-là, quand tu regarderas ta nouvelle lune, bah, tu as ton œuvre qui se débloque en même temps. Et en tant que tel, je trouve que ça crée un état sentimental assez élégant, je pense. Je pense que c'est élégant, en tout cas.
Non, mais c'est très clair, très clair. Et donc votre gros projet,
Après.
bah, vous aurez l'occasion de revenir pour en parler. Vous serez là-dessus.
Oui, non, c'est une longue histoire en plus. Ça s'appellera le marché des péchés. Mais ouais, ce sera une revisite sécularisée du commerce des indulgences. Mais voilà, j'en reparlerai plus tard, je pense. Puis ce sera basé sur Aztec, si vous voyez un peu, qui permet de faire de la vraie privacy on-chain.
Écoute, c'est intéressant, Rem. Je crois que tu es revenu.
Yes,
Ouais.
désolé, désolé, j'ai eu un petit, voilà, un
Non,
petit
non, pas de souci.
impératif.
Non, merci de l'invitation, en tout cas, c'est gentil.
Eh ben, merci à toi, Alex.
Bah ouais, bah merci à vous. Puis,
Eh ben, écoute,
et
voilà, on
puis.
retrouve Distributed Gallery. En tout cas, passez une excellente journée. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi, Rem, pour les news de la semaine.
Ouais, normalement avec
Donc voilà.
Ève et Pauline.
Et Pauline de Rogue Radio France.
Et il y aura
Et
aussi une petite surprise avec des présidents français. Voilà. J'en dis pas plus.
D'accord, très bien. Eh ben, écoute, on se retrouve lundi alors. Et passez une excellente journée. Et good morning. Happy.